Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Et à l'heure du confinement, la compétition se poursuit pour les journalistes d'Europe 1, toujours aussi motivés pour décrocher le titre de chroniqueur du jour, comme tous les après-midi sur Europe 1. Place au meilleur moment de l'équipe est sauvage avec Mathieu Noël et sa complice Eva Rock. Alors, Olivier Pouls ne manquera pas de réveiller nos papilles tout à l'heure avec des briques. Alors, on ne parle pas de parpaings, hein, mais bien des feuilles de briques. Durant cette heure, on verra aussi que le confinement profite aux animaux, notamment parce que c'est la saison des amours. On parlera d'une parodie du bal masqué qui fait le buzz sur internet. Et puis pour se détendre, on vous propose d'essayer le molki, jeu de quilles finlandaise. Bon dimanche avec nous.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour déconfiner nos zygomatiques et nos neurones avec les meilleurs journalistes d'Europe 1 en mode détente. Hein. Quelle que soit leur spécialité, ici les journalistes ont pour consigne de se lâcher, quitte parfois à révéler leur véritable visage, comme Axel de Tarlé, notre expert éco.
La chute de la bourse, j'en ai rien à cirer.
Ah ben voilà.
Une émission où l'on aime aussi, entre deux pétages de plomb comme ça, prendre des nouvelles des personnalités qu'on aime. Aujourd'hui, en ligne avec nous, celui qui, vu la qualité de nos débats la dernière fois, n'a pas hésité à nous dire oui.
André aura le même argent, mais son sperme sera vendu plus cher.
Mais non.
Vous avez un très bon sperme, il est vendu plus cher qu'un sperme un peu moins mobile.
Mais comment vous savez ?
Que ces débats pourtant passionnants nous paraissent loin aujourd'hui. André Manoukian, vous êtes avec nous en duplex de Chamonix. Alors évidemment, dans cette période un peu particulière, vous n'alliez pas rester inactif, hein, ceux qui vous connaissent le savent. Sur Facebook, vous êtes très actif et vous proposez avec votre application MyMelody de trouver des mélodies justement par rapport au prénom des personnes qui vous contactent. Alors ça, c'est vraiment fabuleux. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite démonstration avec Eva Rock ?
Bah tiens.
Alors Eva, oui. E, sol, V, sol et A, do. On a une descente de quinte qui est hallucinante déjà.
Rien à voir avec une descente d'organe. Hein.
Oh Mathieu.
Non, 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 pas du tout. Maintenant, quand on fait son nom de famille Rock, alors là, on a par contre... voyez, là, on a un élan qui vous pousse. On sent... On a un intervalle de six, c'est l'intervalle le plus romantique qui soit. Ça, c'est Chopin.
Ah,
voilà. Et...
ah oui, c'est Chopin.
Ok, donc on a un do là, et puis encore un do à l'octave. Et mais Eva, malgré qu'elle se mette en danger d'un point de vue sensuel, finit par retomber sur ses pattes et sur sa base. Par contre, cet accord de sol à la fin, il demande quand même une certaine résolution. On sent une insatisfaction. Le sol se résout sur le do.
Confirme.
Et ça tombe bien parce que moi, je suis do majeur. Donc voilà, petit message
merci,
pour
André.
Eva.
Merci André.
Petit message.
Mais je vais vous jouer ça d'une manière un tout petit peu plus jolie. Voilà.
Je dis oui
ça.
Tout de suite, hein, ouais, André, hein, ouais. Vous savez.
Eva Rock, plus proche de Chopin que de la Chopine, ça c'est un scoop.
Oh Mathieu,
seul lui, vous pouvez voir ça en Eva. Est-ce que cette période, André, on le sent, elle vous inspire, en tout cas vous faites ces espèces de tutos, de découvertes musicales sur Internet. Est-ce que vous êtes dans la création la plupart du temps ou dans la sidération encore dans la période qu'on vit actuellement?
Très vite, je me suis dit, me voilà ici. Et finalement, le confinement, c'est la condition sine qua non du créateur, que ce soit un écrivain, un scénariste ou un compositeur, un musicien. C'est mon boulot de base, on va dire. Et avant, je pestais parce que j'étais sans arrêt interrompu pour aller sur des plateaux, pour aussi faire un peu mon métier d'homme de médias, de critique. Et donc, je disais, c'est coitus interruptus, sans arrêt. Alors après, il y a des vertus au coitus interruptus. C'est que d'une certaine manière... vous avez une frustration et vous avez toujours la gaule, donc vous êtes toujours en demande. Et là, par contre, je me suis dit, il y avait plus de coitus interruptus. J'étais sans arrêt derrière mon clavier, derrière mon ordi. Et au début, après une semaine, je commençais presque à être épuisé, presque à ne plus avoir d'idées. Et c'est là que je me suis aperçu que finalement, les récréations forcées, quand on vous distrait de votre boulot, c'est pas mal aussi parce que c'est une certaine manière de voir la vie. Donc, il y a un temps qui n'est plus le temps de l'urgence. Et du coup, je m'aperçois que j'ai pas de problème à faire des recherches qui peuvent parfois m'amener loin du sujet. Et du coup, à approfondir les choses. Donc, je dirais que c'est une situation qui est assez propice, ouais, finalement, à la création d'une certaine manière, mais à la création un peu janséniste, hein. Mmh. Vous êtes isolé. Je me rappelle que Rodagil, par exemple, ce formidable parolier, lui, il avait un lieu dans Paris. Il allait tout en haut du Concorde Lafayette, prendre une chambre d'hôtel, et c'était là qu'il écrivait. Donc il y a cet isolement dans la condition du créateur, c'est sûr.
André, on est ravis que vous soyez devenu le musicien que vous êtes aujourd'hui, que vous donnez du bonheur via Facebook en ce moment, mais vous auriez pu devenir quelque chose de plus utile encore dans la période qu'on vit actuellement, et puisque oui, vous aviez entrepris des études de médecine au départ, André. Ça, je ne le savais pas.
Bah, je sais, pour la première fois, j'ai regretté, je me suis dit, merde, j'aurais dû continuer et aller au-delà de la première vertèbre, quoi, parce qu'en fait, j'ai fait 6 mois de médecine, donc j'ai fait les 4 vertèbres du bas, et après, je sais plus ce qui se passe. Par contre, je peux faire un toucher rectal, si ça vous intéresse, Mathieu, mais bon.
Ça, à mon avis, ça, c'est le cours que vous avez suivi, ça ne m'étonne pas de vous. André, vous avez lancé le festival Cosmo Jazz à Chamonix. La 11e édition était prévue du 25 juillet au 2 août prochain. Est-ce que ça, par rapport aux déclarations d'Emmanuel Macron, techniquement, c'est possible, puisque c'est mi-juillet, mais est-ce que votre festival va avoir lieu? Vous en êtes où de ce côté-là?
Aujourd'hui, j'en sais rien. Par contre, je sors un peu dans Chamonix, faire mes courses. Je croise les gens qui me disent, faut faire le Cosmo, s'il vous plaît, faut faire le Cosmo, faut faire le Cosmo. Le paradoxe, c'est que les gens ont envie de musique, ont envie de se changer la tête, ont envie de se faire du bien. Et ça me ramène à ma condition de musicien. Moi, je faisais quand même 100 de concerts par an. Et là, je me dis, putain, avant que je remonte sur scène, est-ce que les gens, même en septembre, vont avoir envie de s'enfermer dans des salles et d'être les uns à côté des autres? Donc nous, c'est dur pour nous, parce que c'était, j'allais dire, voilà, la musique, elle a été sinistrée par, enfin, les revenus des musiciens par Internet. La musique est devenue gratuite. Les seuls revenus qui nous restaient, c'était les concerts. Et là, on va encore en baver. Ouais, c'est pas fastoche, quoi. Mais bon, voilà. Puis pour revenir sur la médecine, il y a beaucoup de médecins qui sont musiciens. C'était pas complètement antinomique. Il y a quelque chose de mathématique dans la musique, un truc des proportions. Puis il y a par exemple le docteur Schweitzer qui sortait son orgue tous les jours dans sa léproserie de Lambaréna et qui jouait Jean-Sébastien Bach devant des Africains qui répondent en chantant et avec des rythmes. Et c'est fabuleux. Un dialogue entre Bach et l'Afrique, je le conseille. Lambaréna, c'est Olivier de Courson qui a fait ça, et on le trouve dans toutes nos bonnes vieilles plateformes qui ramassent beaucoup d'argent et qui distribuent rien aux musiciens, vous savez.
Je vois
formidable. Allez acheter des vinyles, je vous en supplie, commandez des disques et tout, même si vous n'avez rien pour les écouter, regardez ces objets, faites du frisbee avec, mais s'il vous plaît. Voilà.
On l'a surnommé Dédé les doigts de fée. Si vous faites un tour sur son Facebook, vous découvrirez que c'est pas pour rien. Merci beaucoup André Manoukian d'avoir été en ligne avec nous cet après-midi.
Merci Mathieu, merci Eva, vous
merci
avez la mélodie la plus sexy du monde.
Ouais,
salut.
Merci.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
Il est bien là, lui, oui, même le week-end pour notre compilation. Mathieu Noël accompagné de son acolyte Eva Rock. Il est là aussi Emmanuel Duteil qui a choisi cette semaine de nous parler de cartes bancaires et du paiement sans contact. Aujourd'hui plafonné à 30€, il passera à 50€ le 11 mai prochain.
C'est un des économistes les plus pointus d'Europe 1, voire de sa génération. À côté de lui, Axel de Tarlet est un nain, Nicolas Bétou un débutant. Ses éditos conjuguent toujours précision et prise de risque, comme le dernier.
Personne ne connaît le réel impact de cette épidémie, parce qu'il y a une certitude, elle est importante, c'est qu'il va être très important.
Mais enfin... Ah non, vraiment, ce n'est pas pour rien qu'Emmanuel Duteil est le chef du service économie d'Europe 1. Et cet après-midi, c'est un sujet très concret que vous nous proposez, Emmanuel, sur le paiement sans contact, grand gagnant, évidemment, de cette crise qui frappe le monde.
Oui, hein, je ne sais pas si nos auditeurs sont des adeptes. Tout à l'heure, Mathieu, dans le teasing, vous disiez que vous aussi, vous aviez changé vos habitudes. Mais c'est vrai que ça cartonne en ce moment. Et la raison est toute simple. Hein, c'est une des conséquences totalement inattendues du coronavirus. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je pense que vous êtes un petit peu comme moi, moins, vous voulez moins payer avec vos pièces et donc vous utilisez de plus en plus votre carte, y compris chez des commerçants chez qui vous n'aviez pas l'habitude de le proposer. Mmh. C'est pour les pharmaciens, jusque-là on n'y allait quand même pas si souvent que ça, mais par exemple
le boulanger.
Mmh. Alors exactement, et c'est vrai que les chiffres sont impressionnants, on note une vraie explosion des transactions, notamment du côté des boulangers. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est demandé par les clients, mais c'est aussi, et je pense que vous en êtes tous rendu compte, hein, nos auditeurs ou vous là autour de la table virtuelle de cette équipe est sauvage, mais les commerçants, les boulangers le proposent aussi, hein, vous voulez payer en sans contact. Bon, je vais vous donner un chiffre que j'ai trouvé impressionnant. Les retraits aux distributeurs ont chuté de 50% depuis le début de la crise. Donc vous voyez bien que pour payer, on utilise de plus en plus notre carte. Mais en revanche, on se rend compte que maintenant, le plafond de 30 euros, hein, parce qu'on est bloqué à 30 euros pour le paiement sans contact, est jugé comme souvent trop limité.
Et oui, par exemple, Eva a acheté l'autre jour 250 grammes de caviar et elle était extrêmement limitée par ce plafond du sans contact.
C'était
Est-ce
pour
qu'il
votre
faudrait
cadeau.
Pas le relever.
Oui, ça va être décidé sûrement là d'un jour à l'autre. Hein. L'idée, c'est de passer ce plafond à 50 euros. Et c'est vraiment une des conséquences là totalement inattendues du coronavirus, parce que je vous disais qu'on paye de plus en plus par carte bancaire. Mais aussi l'une des conséquences, c'est qu'on va, là encore, hein, on le vit tous, on va de moins en moins faire nos courses. Donc à chaque fois, on essaye de faire un plus gros plein que ce qu'on pouvait faire avant. Et puis, on va moins à l'hypermarché, en tout cas pour ceux qui peuvent le faire dans les grandes villes. On va plus à la petite supérette du coin, au petit truc de proximité, parce que on veut pas faire trop de distance et on veut quand même se presser à faire ses courses. Je vais vous donner quelques chiffres qui montrent qu'on dépasse maintenant très vite ce plafond de 30 euros. Avant la crise, les paiements de plus de 30 euros, c'était environ 30% des paiements. Là, depuis quelques jours, on est passé à quasiment 45% des paiements qui sont aujourd'hui des paiements de plus de 30 euros. Un autre chiffre que j'ai trouvé impressionnant, alors là on pourrait pas obligatoirement payer avec sa carte, mais quand même ça montre la façon dont la consommation évolue. Dans les hypermarchés, le paiement moyen avant la crise c'était 45,33 €. Et bien maintenant, il est de 74,56 €.
La question c'est qu'est-ce qu'on attend pour relever ce plafond, Emmanuel ? D'après ce que vous nous dites.
C'est vraiment la bonne question. Alors, il faut voir que déjà, les pouvoirs publics poussent beaucoup, hein, notamment le ministère de l'économie voudrait vraiment qu'on passe à 50 euros. Mais pour ça, il a fallu quand même brusquer les banques, parce que les banques disent « Oh là là, c'est trop compliqué à faire, et puis en ce moment, nos équipes sont en télétravail, comment voulez-vous que l'on y arrive ?» Alors, elles ont quand même cédé, elles ont quand même accepté au moins de regarder comment on allait faire. Et ce qui peut paraître, sur le papier, de se dire « On va aller passer de 30 à 50, faut quand même pas avoir fait la plus grande école de France. » Si, c'est très compliqué. Pourquoi ?
Ah bon ?
Parce que faut régler deux problèmes techniques. Le premier, c'est qu'il faut réussir à distance à faire évoluer le plafond chez les commerçants, vous savez, sur les terminaux bancaires. Il faut également modifier nos cartes bancaires. Il faut les modifier à distance. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était passé de 20 à 30 euros, il avait fallu changer les cartes bancaires. Il avait pris 3 ans.
Oh,
voilà, on va quand même essayer de faire ça en un petit peu moins longtemps, parce que j'espère bien que d'ici 3 ans, on pourra quand même payer des bières en terrasse avec nos potes. Donc,
50 euros
de bière, c'est de faire ça à distance. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, il faut réussir à changer ça à distance. Et pour le vérifier, les banques ont fait des tests ces derniers jours, notamment l'une des plus grandes banques de Paris a fait son test vendredi. Le test s'est bien passé, m'a-t-on dit. Donc, on semble quand même s'orienter vers cette hausse de ce plafond. Je vous dis, la décision devrait être bientôt prise.
Oui, vous n'allez pas partir comme ça. Vous allez nous donner une date, un horizon, Emmanuel, pour ce paiement sans contact à 50 euros.
Oui, alors logiquement, la décision doit être prise d'ici à la fin de semaine. Et de ce que l'on m'a dit, il faudrait quand même un mois pour que ce soit effectif. Parce qu'on a beau faire ça à distance, bon, il faut quand même un petit peu préparer les esprits. Alors là, je suis sûr que vous êtes en train de calculer un mois.
Mais
oui,
fin
c'est
du confinement, quoi.
Prendre la bière avec les copains.
La fameuse.
Mais même si ça arrive que dans un mois, on en a besoin parce que cette crise va au moins avoir une évolution. Certes, nos habitudes de consommation vont changer. On va mettre du temps à avoir envie de s'agglutiner dans un centre commercial, d'avoir envie de s'agglutiner dans un hypermarché. Donc, on va continuer à vouloir payer comme ça en proximité et avec le sans contact parce que, mine de rien, on perd un peu l'habitude d'utiliser les pièces et puis même si on a perdu l'habitude de ce qu'on avait peur, bon, c'est quand même plus sympa, plus pratique de payer en sans contact, surtout que le sans contact était déjà en train d'exploser. Hein. L'an dernier, en 2019, près de 4 transactions par carte sur 10 étaient déjà en sans contact. Ça fait 3 milliards 300 millions de transactions. En 2014, qui était l'année juste après le lancement du Sans Contact, il n'y en avait que 64 millions.
C'est énorme.
La victoire du Sans
Contact. Vous avez
manqué
avec tous mes chiffres chiants.
Oui, non, non, pas du tout.
Tous vos chiffres chiants. Non, mais il nous manque surtout, on a hâte de prendre des bières avec vous, puisqu'on a bien compris qu'au-delà des chiffres, votre obsession, c'était surtout la bière, Emmanuel Duteil, votre passion secrète. Et pour ceux qui en douteraient encore de votre flair économique et social dont on parlait tout à l'heure, je rappelle votre déclaration du 7 mars dernier.
Mais moi, j'aurais pas peur d'aller en Toscane en vacances en avril. Hein.
Il avait flairé le truc.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h.
C'est une façon originale de se détendre pendant le confinement, le molki. Jeu de quilles en bois qui se joue plutôt dans un jardin avec des amis, mais à défaut de pouvoir sortir, des passionnés ont trouvé une nouvelle manière de jouer et même d'organiser des tournois en restant chacun chez soi. Explication avec Stéphane Place, c'était ce jeudi sur Europe 1 dans l'équipe est sauvage, toujours emmené par Mathieu Noël.
Dans cette grande compétition qu'est l'équipée sauvage, certains journalistes, un peu trop vantards ou un peu trop sadiques, partent avec un handicap. C'est clairement le cas de Stéphane Place, notre correspondant dans le Sud-Ouest,
c'est
qui,
vrai.
Pendant que ses collègues sont confinés dans de petits appartements sur cour, enchaîne, lui, les barbecues dans son fastueux domaine bordelais, qui plus est, en se foutant de notre gueule.
Le frétillement d'une entrecôte bazadaise sur mon barbecue, le foie gras périgourdin de Bergerac, par exemple, je dis pas ça parce que Romain, le réalisateur, est originaire de la région et qu'il va voter tout à l'heure, Romain.
Point d'emblée donc
clairement.
Pour Stéphane Place. Stéphane, évidemment, vu votre quotidien actuellement, vous n'allez pas nous parler géostratégie ou macroéconomie, mais plutôt d'un autre truc en i plus cool, le molki.
Exactement, le molki. On y a tous cédé à la tentation de la partie de molki durant l'été. C'est vrai que c'est assez amusant. Vous savez, ce sont ces quilles numérotées de 1 à 12, et puis on envoie le morceau de bois, le molki. Et évidemment, cela permet d'avoir des scores et d'avoir un vainqueur. C'est assez, voire même très très convivial, très sympa.
Oh oui.
Problème, c'est qu'avec le confinement, à plusieurs, se retrouver, ça pose une difficulté. Et donc, des passionnés ont trouvé une solution. L'un d'eux, Cyril Léger, appartient au Tchanké Molki Club. C'est sur le bassin d'Arcachon. Lui, il est originaire de La Teste de Buch. Ils se sont dit, bon, mais comment on fait alors pour disputer un tournoi? Parce que c'est quand même très sympa, très marrant. Et évidemment, ils ont eu recours à la visio, à Internet, avec des connexions vidéo. Ils se sont réunis à 10 et ils ont réalisé un premier tournoi. Alors évidemment aussi, quand on joue à un jeu comme celui-ci, il faut que chacun ait la même disposition de quilles face à lui quand vient son tour. Eh bien Cyril Léger va vous expliquer comment ça marche.
On est tous sur un site de visioconférence et donc l'adversaire voit le jeu sur lequel on joue. Donc par exemple, moi je démarre, je joue, je casse, les quilles s'éparpillent et je dis à mon interlocuteur et aux spectateurs qui sont là où sont placées les quilles et lui, chez lui, il place les quilles exactement au même endroit et ensuite c'est à lui de jouer. On utilise des décamètres, des décimètres, etc. pour essayer de placer les quilles du mieux possible. Alors on n'est pas au millimètre près, mais avec une petite vision du téléphone plus des molki plus le décamètre, on arrive à avoir quelque chose, je pense, d'assez précis. On a quand même une grande confiance les uns envers les autres, donc normalement ça doit bien se passer. Sur le premier tournoi, on était une dizaine, de Bordeaux jusqu'en Bretagne et jusqu'à Metz, donc c'était quand même pas mal réparti. Et là, sur ce deuxième tournoi, on a un joueur belge et un joueur australien.
Vous rendez compte, mais ça devient international.
Mais ça doit prendre des heures à chaque fois à remettre les quilles comme il faut et tout, non ?
Alors, il faut être un peu patient, il faut écouter les consignes de celui qui vient de jouer en disant attention, la quille 5, elle est à 25 cm du bord. Là. Oui, ça forcément. Mais quand on est passionné, on prend son temps. Après, vous l'aurez remarqué quand même, c'est un peu comme dans cette émission, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. On a tous, ils ont tous en l'occurrence de quoi mesurer, un double décimètre, etc. Bon, ils jouent entre eux, donc a priori, il n'y a pas de mauvaise état d'esprit du tout, hein, mais quand même on sait jamais, on fait gaffe, on mesure. Moi je trouve que l'initiative est topissime parce que franchement il y a un côté très enfantin, finalement c'est le jeu, mais on en a énormément besoin dans cette période, hein, de s'amuser, de se marrer. Et cette notion aussi d'être avec les autres, même à distance.
Mais pardon Stéphane, mais pour ceux qui sont en appartement par exemple,
Vous allez disposer vos quilles de molki dans le couloir. Oh hein,
voilà. Oui d'accord, mais les voisins ils vont être contents quand même. Hein.
Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ce problème-là.
Ah bah oui,
on pourrait faire pareil. Alors moi j'ai une très bonne idée en appartement à Paris, ça serait la même chose avec la pétanque.
Oui,
vous jouez à la pétanque dans le couloir,
Et
là ça peut être vraiment très sympa pour les voisins du dessous.
Je ne savais pas que j'allais vous en parler parce que je comptais le garder pour la semaine prochaine, mais figurez-vous qu'il vient de se créer des parties de pétanque, des mini pétanques en fait pour mettre sur la table, sur une table à manger, pour pouvoir continuer à jouer, je vous assure, à la pétanque, mais c'est du mini pétanque.
J'ai l'impression que ce confinement est en train de cramer nos neurones.
Ouais.
tous au porte-nous
sommes. Ça va être bien quand ces habitudes-là seront prises, vraiment bien prises, et puis que le déconfinement arrivera, ça donnera des repas de famille intéressants. Bel moment, reste au bout de la table, je vais pointer ou tirer, je ne sais pas encore. Je vois bien le truc, ouais, ça va être chouette.
Merci beaucoup Stéphane Place pour ce rayon de soleil. On ne va pas vous déranger plus longtemps car il me semble entendre quelque chose griller sur votre barbecue.
C'est des poulets fermiers qui, comme Mathieu, ont la cuisse ferme et du poil aux pattes.
Ah, belle région quand même que le sud-ouest.
Ah mais oui, elle est formidable cette région, c'est la plus belle. C'est la plus belle, en plus avec les bandages derrière là, franchement. Ah, là.
J'embrasse ma sœur Laurence qui vit pas très loin de chez vous.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
De la bonne humeur et plein de petites infos sympas, c'est tous les après-midi sur Europe 1 avec Mathieu Noël, Eva Rock, nos jeunes compétiteurs, pourquoi jeunes, je ne sais pas pourquoi je dis ça, compétiteurs, journalistes d'Europe 1. Et les meilleurs moments de l'émission, c'est à présent un hommage aux soignants via une parodie qui a fait buzz sur Internet.
Comme disaient Roosevelt, Staline et Churchill après avoir négocié les accords de Yalta... que la situation est grave, c'est bon de rire, haha. Et en ce moment, vous êtes nombreux, professionnels ou amateurs de l'humour, à nous faire rire, haha, sur Internet, par le biais de facétieuses vidéos. Parmi elles, celle d'un imitateur des Hauts-de-France, dont va maintenant nous parler notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougelot, une parodie du célèbre tube de la compagnie créole Le Bal Masqué, un titre qui a déjà inspiré les plus grands de Caris.
Elle danse, elle peut pas s'arrêter, au Bal Masqué.
Mais non.
Elle danse, elle peut pas s'arrêter.
Même Georges Brassens. Tous les plus grands se sont frottés, si j'ose dire, à la compagnie créole. Et voilà donc Lionel, Covid-19 oblige, la pandémie créole.
Ouais, effectivement. Alors, vous me connaissez, Mathieu. Hein.
Je commence à vous connaître.
Journaliste de terrain, rigueur professionnelle. Je ne suis pas du genre à me laisser embarquer par un simple buzz sur Internet. Mais là, je dois reconnaître que parmi toutes les vidéos... plus ou moins drôle, hein, il faut bien le dire, que j'ai vu partager ces derniers jours sur les réseaux. Je crois qu'on en a tous vu, hein, plus ou moins rigolote. Celle-là, elle m'a bien plu et je ne suis pas le seul parce qu'elle totalise des centaines de milliers de vues. Alors vous l'avez dit, c'est une parodie d'une chanson qu'on va reconnaître tout de suite. Et attention, ça pose un vrai problème majeur dans le contexte de l'épidémie.
Des patients qui attendent, des patients qui attendent. Des patients qui attendent, des patients qui attendent. Ohé, ohé, très mal masqué, ohé, ohé. On passe.
Qu'est-ce que c'est réussi? Non mais...
C'est bon, hein?
Ah ouais, c'est génial. Ah mais le texte il est formidable hein. Non mais
ce
vraiment.
N'est pas la compagnie créole.
Non, c'est pas la compagnie créole, c'est la pandémie créole. Ah ouais, alors bon, bien voilà, sûr. C'est évidemment une parodie qui a été créée par un artiste de cabaret originaire, vous l'avez dit, de la région lilloise. Il s'appelle Jérémy Sirot. Alors il est humoriste, imitateur. Peut-être que vous vous souvenez de lui, il y a 3 ans, il avait fait un passage assez remarqué dans l'émission La France a un incroyable talent. Pour ses talents donc d'imitateur, on l'avait même appelé le Lucky Luke de l'imitation, tellement il arrive à changer de voix d'une seconde à l'autre. Alors évidemment, en ce moment, il est lui-même confiné dans son logement, donc de la banlieue lilloise. Il écrit actuellement pour son prochain spectacle et il s'inspire beaucoup de l'actualité. Il écoute beaucoup Europe 1 d'ailleurs.
Ah, c'est une bonne idée ça.
Ouais, voilà. Et l'idée lui est venue, bien tout simplement, de faire cette parodie, alors évidemment pour le sourire, mais aussi pour appuyer un peu là où ça fait mal et relayer le message des personnels soignants à l'hôpital ou ailleurs qui galèrent, hein, on le sait, pour avoir des masques de protection. Et de toute évidence, eh bien, il a visé plutôt juste.
Déjà, les partages de la vidéo en eux-mêmes, c'est une formidable récompense. Je pense qu'il y a un moment où le personnel soignant s'est emparé de la vidéo et se l'est approprié et ils l'ont fait circuler dans leur groupe, etc. Et des moments, c'était, je crois, jusqu'à 10 000 vues à l'heure. Bah, c'était le but de départ, c'était de donner le sourire dans des journées qui sont plutôt infernales. Je pense qu'ils se sont reconnus tout simplement dans ce qui était exprimé et c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est devenu, beaucoup l'ont appelé leur hymne. Voilà, c'est fabuleux. Beaucoup m'ont demandé si j'étais médecin. Pas du tout. Je suis pas du tout médecin. Je suis intermittent. Je suis imitateur. J'ai un one-man show. Voilà, j'ai reçu énormément de commentaires, de messages, de remerciements et à chaque fois qu'ils me vont droit au cœur parce que bah, ils me confient un petit peu leur quotidien et c'est très très touchant.
Et en plus, il a l'air sympa, Lionel.
Ouais, super sympa. Ouais. Vraiment, c'est un super gars. Je l'ai eu au téléphone une bonne partie de l'après-midi, samedi après-midi. D'abord, il était ravi qu'on l'appelle, hein, ravi de passer dans l'émission. L'équipe est sauvage, qui l'écoute assez régulièrement. Il vous aime beaucoup, Mathieu.
C'est un vrai
phénomène, hein, parce que ouais. Plus d'un million et demi de vues sur sa page Facebook. Énorme. Et même de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai vu que sa vidéo avait été repérée par les journalistes du site internet de Radio-Canada. Vous voyez, donc il a même franchi l'Atlantique. Alors évidemment, depuis sa mise en ligne, Jérémy Siro continue de recevoir des dizaines de messages du monde médical. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'il n'y a pas une seule critique. Il n'y a personne parmi les médecins qui se dit « Tiens, ils se moquent de nous », etc. Non, pas du tout. Vous connaissez un peu l'ambiance des réseaux sociaux parfois. Hein,
bon,
ouais. Et là, vraiment, c'est que du positif. Les gens le remercient. Et puis voilà, quoi, ça fait vraiment sourire. Alors, il travaille actuellement sur une nouvelle vidéo, mais cette fois, il ne parlera pas du monde médical. Il va parler de nous, du quotidien des Français qui sont actuellement en période de confinement. Ben, moi, j'ai un peu hâte de voir ce qu'il va nous raconter, parce que je trouve qu'il a quand même pas mal de talent, ce garçon.
Et on espère que ça sera sur l'air, évidemment, de C'est bon pour le moral.
Oui, par exemple, c'est peut-être une suggestion, parce qu'il va vous entendre, à mon avis, il va le reprendre.
Merci beaucoup Lionel Gougelot, encore un beau sujet. Au fait Lionel, par rapport au précédent sujet sur les positions sportives, alors Eva n'a pas réussi à faire la rotation russe. En revanche, elle a une alternative à vous proposer.
Ce qu'on appelle l'araignée.
Je vous laisse vous arranger entre vous.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Le 11 octobre dernier, Mathieu Noël recevait le comédien Charles Berling pour la pièce Art de Yasmina Reza. Charles Berling, également ambassadeur de l'association Mettez du Rouge. N'hésitez pas d'ailleurs à réécouter l'émission en podcast sur le site d'Europe 1. Et Charles Berling avait affronté Eva Rock sur un quiz.
Muscler dans un même élan vos neurones et vos zygomatiques, voilà la promesse de l'équipée sauvage. De bonne humeur mais aussi d'érudition, notamment grâce à feu la séquence du quiz de Culture G qui opposait Eva Rock à l'invité. Eva dont, il faut l'avouer, la malice pourtant légendaire était souvent insuffisante face aux connaissances encyclopédiques de nos invités, à moins bien sûr, c'est une théorie qui circule, que les questions fussent biaisées à l'avantage de cette invité. On ne saura jamais, on ne saura jamais, mais c'est une théorie intéressante car Eva a toujours été extrêmement maligne et extrêmement précoce. Oula. Comme sa grand-mère Jocelyne Rock avait pu le constater alors qu'elle était à peine majeure.
Le prince charmant va sans doute te surprendre par son comportement, mais surtout n'aie pas peur.
T'en fais pas, grand-mère. Je me suis déjà fait butiner la pâquerette, tu sais.
Pour fêter ça, Eva, je vous propose justement qu'on se réécoute quelques-uns des meilleurs moments du quiz. Quand vous vous retournerez sur votre carrière, Charles Berling, vous réaliserez un jour qu'il y a eu deux moments fondateurs, décisifs. Votre casting avec Claude Sauté pour le casting de Nelly et Monsieur Arnaud et votre quiz face à Eva Rock. Êtes-vous prêt à relever le défi ?
Il n'a pas dit oui,
oui
ni non.
Oui, je suis prêt.
Mais il a peur,
mais je suis très
tremble,
quiz,
elle aussi.
Non, mais moi aussi.
Alors, chaque jour, un quiz. En hommage à la pièce de Yasmina Reza, Art, que vous jouez avec Jean-Pierre Darroussin, on a décidé aujourd'hui de faire un vrai faux sur l'art. Ça montre qu'il y a de la créativité dans notre émission. Attention. Chaque bonne réponse vaut un point. Charles Berling, un pigeon, est capable de différencier un Picasso d'un Monet. Vrai ou faux ?
Faux.
Vrai. L'université de Kyo, au Japon, a mené des expériences sur des pigeons, à qui on a montré des toiles de Picasso. Ils devaient picorer sur un interrupteur pour avoir de la nourriture. Quand on a mis d'autres toiles avec d'autres interrupteurs, mais en les mélangeant avec d'autres peintres, ils ont obtenu un taux de bonne réponse de 90%. Vous avez compris,
Eva ? Ah oui, mais la question est truquée, parce que moi, on me dit Picasso ou Monet. Mais non, est-ce qu'il peut différencier Picasso d'autres peintres ? C'est pas la même chose. Non, franchement, affinez vos couilles.
Une réclamation a été déposée par l'invité.
Ouais, c'est triché, quoi.
L'huissier l'étudiera tout à l'heure. Eva Rock, vous connaissez le peintre néerlandais du XVIIe siècle Vermeer.
Oui.
Mais Vermeer, c'était son nom ou son prénom ?
Si vous me posez la question, je pense.
Regardez peut-être l'invité qui vous fait des grands signes.
C'est son nom.
C'est son nom, bonne réponse. Son prénom, c'était Johannes. Par contre, pour Rembrandt, c'est son prénom.
Prénom.
Et oui, puisque son nom, c'était Van Rijn. Et je vous rappelle que Juste Fontaine, c'est juste son prénom. Attention, une question, trois propositions, vous répondez ensemble. En 2006, Steve Wynn vend un Picasso intitulé Le Rêve. Un accord est trouvé sur le prix, 139 millions de dollars. Mais au dernier moment, la vente capote. Pourquoi ? 1. Steve reçoit un coup de fil de sa mère qui finalement veut l'accrocher au-dessus de son lit. 2. Steve donne un coup de coude dedans et fait un trou. 3. Steve ne se souvient plus dans quel coffre il a mis le Picasso.
Et je suis comme vous, Charles. Je pense que c'est la 2, c'est le coup de coude dans la toile.
Alors vous dites le coup de coude dans la toile, oui.
Et Charles
moi aussi. Ouais.
Vous aussi, et vous avez raison, tous les deux. Un gros trou.
Monsieur, qu'est-ce qu'on a gagné?
Vous allez voir. Un mug Europe 1, probablement. Un gros trou de 20 cm, et ce, juste avant la vente. Finalement, il vendra la toile réparée 7 ans plus tard pour un montant de 155 millions de dollars.
Ah ben, ouais, je sais, je l'ai chez moi, cette toile. C'est pour ça que je le savais. Parce qu'il y a le petit truc, là. C'est recousu.
Eva Rock, Tim Patch, plus connu sous le pseudo de Picasso, peut faire votre portrait pour 75 dollars et ce, en peignant avec son sexe. Vrai,
oui, mais alors, le pire, c'est que je suis sûre que c'est vrai, cette histoire.
Vrai,
voilà,
Eva.
Vous
avez raison,
voilà.
Vous avez gagné. Il a déjà fait des portraits de Michael Jackson et George Bush. Il utilise de la peinture acrylique pour ne pas endommager son pinceau. J'aime cette précision. Enfin, Charles Berling, cette question va vous départager. Voici quatre stars. Qui, parmi ces quatre stars, n'a jamais peint de sa vie? Boris Vian, Charles Bronson, Julio Iglesias ou Zaz?
Zaz.
Vous avez tort, la seule personne qui n'est pas peint ici, c'est Julio Iglesias.
Ah bon,
eh oui, vous pouvez voir les peintures de Zaz sur son compte Instagram.
Absolument.
Vous quel cocu, quel acteur, ben. Mesdames et messieurs, Charles Berling. Il peut tout jouer, hein, il peut tout jouer. Ah, oh, j'adore Zaz. Bronson et Vian ont peint régulièrement. Julio Iglesias, vu son nombre de descendants, avait autre chose à foutre.
Merci Mathieu.
Avec mauvaise foi, c'est Charles Berling qui gagne.
Qu'est-ce qu'on a gagné, Mathieu?
Je vous dis, un mug européen. Et vous repartirez chez vous avec et vous serez bien heureux. J'évoquais tout à l'heure le casting que vous avez passé avec Claude Sauté pour votre rôle dans Nelly et Monsieur Arnaud. Et j'aimerais que vous nous racontiez ce qu'il vous a dit, Claude Sauté, les raisons pour lesquelles il vous a choisi, car je trouve que c'est très juste.
vous les prouvez aujourd'hui. Et il m'a dit, toi, je vais te prendre pour ce rôle, parce que quand tu dis quelque chose, quand tu affirmes quelque chose, on ne sait jamais si tu parles sérieusement ou si tu te fous de notre gueule.
Mais en lisant le dossier, j'ai trouvé que c'était vraiment la phrase qui vous résumait bien.
Ah bah merci.
Bah non, mais c'est la force d'un acteur.
Bah oui,
c'est mieux.
C'est une force.
J'aimerais que vous nous racontiez ce qui s'est passé en 94 durant une représentation du Bavard à Avignon. Parce que ça, dans un film, on n'y croirait pas.
Non, tout à fait. Un jour, j'en avais parlé à Jean-Loup Dabadie qui m'a dit « Tu mets ça dans un scénario,
c'est
personne
ne
te croit.
Ouais. »
Hein. C'est parce que j'ai joué une pièce tout seul au Festival d'Avignon. Il s'appelait Le Bavard, d'ailleurs. Une pièce de Louis-René Desforêts. Et il se trouve que pendant la représentation, à un moment donné, je posais des fausses questions au public. Et quelqu'un, j'entends une voix dans le public qui dit « Oui, moi j'ai quelque chose à dire, c'est très mauvais. » Et moi, je joue, je continue à jouer, parce que ça peut arriver que des gens dans le public se enhardissent comme ça de faire un commentaire. Et puis ça continue, et puis à un moment donné, cette voix... Et puis moi, je me dis, je connais cette voix. Et puis j'entends à un moment donné, oui, c'est mon fils, et je lui ai dit que c'était très mauvais, qu'il ne fallait pas faire ça, machin, etc. En fait, c'était ma mère à ce moment-là qui me parlait. Parce qu'on était un peu fâchés, et puis bon, elle avait trouvé ce moyen pour qu'on se reparle. C'était une femme de caractère.
Ah, ça, on le voit. Mais les gens dans la salle, ils ont compris que c'était la réalité ou ils ont pensé que c'était un happening dans la pièce, en fait?
Non, ils ont pensé que c'était une excellente actrice, que c'était la pièce, en fait. Et je dois dire que ça a été un triomphe absolu, parce que je pense en plus que bon, moi j'étais, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement fragilisé, c'était très compliqué pour moi, mais je pense que le public à ce moment-là, c'est très animal le théâtre, alors le public sent qu'il se passe quelque chose qui dépasse la routine de la représentation, là, il y a vraiment, on est dans un état, et donc ça a été un triomphe, ce qui était à la fois une joie et une souffrance.
D'ailleurs, c'est juste pour préciser, vous avez raconté votre maman dans un livre qui s'appelle Aujourd'hui, ouais. Maman est morte,
oui.
Avec Sophie Blandinière. C'est à retrouver aux éditions Flammarion, si vous voulez lire. C'est un très très beau récit de la vie de votre maman.
Oui, parce que ça, c'est une femme qui est née au Maroc. C'est au fond, je trouve que c'est une histoire particulière, mais qui rejoint l'histoire universelle et l'histoire générale de la France et de ses colonies, enfin, et de ses protectorats, et ainsi de suite. Et donc, cette histoire-là, elle a créé des relations humaines, et moi, j'en suis le fruit.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Et oui, ce sont les dernières minutes de cette compilation avec Mathieu Noël, Eva Rock, sa grande complice, Olivier Pouls dans un instant pour sa recette, et tout de suite, Farah Kessri.
Vous Vous écoutez l'Équipée Sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G et surtout en ce moment de votre bonne humeur. Car en ce 31e jour de confinement, on est tous pareils, on est en manque de contact humain. Eva, manque de contact humain, même si c'est vrai, pour nos amis célibataires, ça devient aussi très dur de ce côté-là. Je vois par exemple, en effet, cette pauvre Eva, confinée en studio depuis 31 jours maintenant avec Romain Causeur, notre réalisateur, qui lui est confiné de l'autre côté de la vitre, sans possibilité donc de se toucher. C'est assez frustrant, d'autant que ce coquinou de Romain s'amuse à la faire tourner en bourrique pendant les coupures pub.
Je me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas en fait. Ah oui, quand même, ouais. D'accord.
Oh,
ouais, c'est pas mal. Ouais.
Sacré Romain.
N'importe quoi.
Pour les... Oh, vous faites ce que vous voulez, hein, tant que ce n'est pas filmé. Pour les animaux aussi, c'est la saison des amours. Farah Kessri, vous êtes notre vétérinaire. Et grosso modo, ce que vous nous expliquez aujourd'hui, c'est que le confinement, eh ben, c'est la fiesta pour nos amis à poil.
Absolument, les rôles sont inversés. Hein. Les humains se terrent chez eux et les animaux peuvent enfin déambuler tranquillement. Il y a moins de voitures qui circulent et du coup, moins d'animaux écrasés. Et avec le calme ambiant, eh bien, il y a plusieurs espèces hein, qui se sont aventurées dans les villes. Un peu partout dans le monde, on a vu des images, y compris en France. Et on a vu par exemple des daims se promener dans les rues de Boissy-Saint-Léger en région parisienne.
Ah, elle est incroyable l'image. Ouais. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux, c'est incroyable.
Et c'est une vraie image, hein, celle des dauphins à Venise, c'était un fake.
Ah bon, les dauphins à Venise, c'était un fake?
Oui, c'était un fake. Ouais,
oh, bah, j'y ai cru, moi, mais moi, je me fais toujours avoir par les fake news. Bon. Alors, les poissons de la Seine ont aussi la paix, paraît-il. Et plus au sud, à Marseille, on a même vu des baleines au large des Calanques. Ça, c'est pas des fake photos, ça?
Non. Ça, c'est vraiment des images qui ont été tournées par les agents du littoral. C'était deux rorquals. Vous savez, c'est les plus gros cétacés juste après la baleine bleue. Hein. Ils mesurent à peu près 20 mètres, alors que la baleine bleue, c'est plutôt 30 mètres. Ils ont été donc filmés. Vous pouvez aussi retrouver les images sur Internet. Et il faut savoir qu'habituellement, en raison du trafic maritime, les animaux marins sont très perturbés par notre pollution sonore. Au fond de la mer, en fait, c'est aussi bruyant qu'une autoroute. Or, les cétacés utilisent le son pour communiquer sur grandes distances et notamment les infrasons. Les baleines, par exemple, hein, deux baleines, par exemple, peuvent échanger des informations, faire la route ensemble alors qu'elles sont à plusieurs kilomètres l'une de l'autre. Je vous rappelle hein, que le son, lui, peut se propager quatre fois plus vite sous l'eau par rapport à l'air et avec les infrasons, ça va diffuser encore sur de plus grandes distances. Et malheureusement, leur système de communication est fortement brouillée par notre pollution acoustique et avec le confinement, eh bien, elles ont enfin la paix pour se retrouver et comme c'est le cas pour beaucoup d'espèces marines, eh bien, c'est la période de reproduction qui s'étale justement d'avril à septembre, donc on peut imaginer que les regroupements sont beaucoup plus faciles à réaliser.
Et on peut parler effectivement donc de fête du slip, comme disent les scientifiques. C'est aussi la période de reproduction des oiseaux en Camargue qui profitent du calme et de l'absence de touristes.
Absolument, c'est dans le parc ornithologique du Pont de Gau. Il y a des aigrettes, des hérons, des ibis falcinelles et près de 2500 flamants roses contre 1600 en temps normal.
Ah oui, c'est énorme.
Ah bah oui,
d'accord,
c'est super beau à voir. Il faut voir les images qui sont postées sur les réseaux. Et les couples sont déjà formés. Et la période de ponte vient de commencer. Alors, elle s'étale d'avril à juin. Et on annonce justement pour le mois de juin un véritable baby-boom de flamants roses. Et je vous rappelle que ses parents sont monogames et ils ont un seul œuf par couple.
Ah oui, bah j'allais vous poser des questions. Je ne savais pas que le flamant rose était fidèle.
C'est assez souvent chez les oiseaux. Hein. La monogamie chez les oiseaux, elle est assez fréquente. Vous avez des couples, soit c'est une femelle et un mâle, soit ce sont deux mâles qui vont couver un œuf.
Ah bon, mais deux mâles qui vont couver un œuf, comment ils ont fait pour avoir un œuf?
Ah bah ils ont pris un œuf abandonné et ils ont couvé un œuf.
Oh bah c'est beau.
Et ce sont de très très bons parents.
C'est très beau. Et pourquoi? Alors là, c'est la question que mon fils se pose, donc je vais vous la poser.
Pourquoi je sais ce que vous avez demandé.
Les flamants roses sont-ils roses, Farah?
Eh bien tout simplement en raison de leur alimentation, vous savez, ils mangent des petits crustacés et ces crustacés, ce sont des artémies et tout, et ils sont riches en carotène, un peu, vous avez le pigment un peu rose-rouge qu'on retrouve aussi dans les carottes et c'est ça en fait qui permet de colorer leur plumage. Il faut savoir que les petits, ils n'ont pas des plumes roses, ils sont plutôt gris et c'est vraiment en grandissant qu'ils vont acquérir cette coloration. Plus ils vont manger des crustacés et plus leur plumage va être rose.
Moi, je teste la même chose avec les carottes.
Voilà. Vous allez devenir tout orange.
Vous allez avoir le teint rosé.
Et je vais être aimable en plus.
Oui, et ça vous fera du bien. Ouais, merci beaucoup, Farah Kasri, pour cette parenthèse animale, puisque pendant qu'on est confiné chez nous, les animaux, eux, se font plaisir. On l'a bien compris. Et on rappelle, hein, afin d'éviter tout nouveau débordement dans le studio entre Eva et Romain, notre réalisateur, la saison des amours, c'est uniquement pour les animaux.
Je veux la vidéo.
Non, Farah, ne les encouragez pas. Ne les encouragez pas.
16h, 18h, L'Équipée Sauvage sur Europe 1.
Vous écoutez L'Équipée Sauvage, l'émission qui stimule vos neurones, chatouille vos zygomatiques et réveille même vos papilles. Grâce à celui pour qui la gastronomie n'est plus, avouons-le, qu'un hobby, une marotte, depuis que le monde du hip-hop l'a consacré révélation belge de l'année. Un succès qui d'ailleurs trouble la tranquillité du village bourguignon où il vit, sachant qu'il va désormais chercher le pain en Hummer doré en criant par la fenêtre.
Snoop Doggy Bye.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis. Mais révélation belge, je trouve ça un peu réducteur. Révélation tout court m'irait bien.
Révélation
ah oui,
mondiale.
Bien sûr.
Mon cher Olivier, vous restez quand même un chef épatant et tous les jours vous nous proposez un voyage culinaire. Cette semaine, là, quelque chose est tombé à côté de vous.
Vous êtes entier ou tout va bien?
Non, tout va bien. C'est la porte du Hummer que j'ai claqué un peu violemment.
Alors, Olivier, qu'est-ce qu'on trouve dans votre casserole aujourd'hui?
Je vous avais proposé, en tout cas aux auditeurs, de nous suggérer une destination pour aujourd'hui. Et c'est le Maroc qui est venu en tête, visiblement. Voilà. Que beaucoup de nos auditeurs aimeraient être confinés dans un riad de Marrakech avec piscine et palmeraie. Bon, malheureusement, c'est pas le cas, mais on va quand même voyager avec ces petites briques. C'est un plat assez facile à faire, goûteux et qui fait voyager pour le coup. Alors, de la feuille de brique, ça se trouve assez facilement, même en temps de confinement.
Oui. Alors, on l'a trouvé au supermarché l'autre jour.
Oui, oui.
Alors, c'est dire. Facile. Mais alors, on va voir tout à l'heure si vous êtes aussi fort que ça avec les briques, parce que il y a la feuille de brique évidemment, puis on va faire la farce. Alors, une farce assez simple, là aussi, avec des produits qu'on peut trouver, hein, des produits du tout venant, de la viande hachée par exemple, des oignons, du concentré de tomate, surtout beaucoup d'épices. Alors là, je ne sais pas ce que vous avez dans votre placard. Je sais, mon cher Mathieu, que vous avez une armoire à épices particulièrement bien garnie.
Ah, c'est bien étoffé, effectivement, je dois dire.
Oui, ouais, alors est-ce que vous auriez un peu de raselle à nout, un peu de cumin, un peu de cannelle, par exemple.
Oui,
vous avez tout
j'ai
ça.
Tout ça.
Bon,
oui.
Ben, vous allez détailler votre oignon en petits morceaux, un petit peu de matière grasse, on le fait revenir, on rajoute une ou deux petite cuillère à soupe d'eau et on laisse compoter l'oignon. On va rajouter ensuite la viande, les épices, un peu de concentré de tomate. Et il faut vraiment laisser compoter tout ça pendant 15-20 minutes de manière à avoir une farce très sèche. Parce que c'est ce qui va permettre de garder le croustillant de notre feuille de brique. Ensuite, on va prendre les feuilles de brique. Et c'est là que c'est un petit peu technique, mon cher Mathieu. Mmh. Est-ce que vous savez comment on les plie? Parce que c'est ça tout l'enjeu quand on veut faire des briques qui ressemblent à quelque chose. Vous savez, c'est ce pliage en triangle, une espèce d'origami marocain. Est-ce que vous savez le faire?
Eh bien, vous savez quoi, mon cher Pouls? Je vais vous surprendre. Mais oui, je sais le faire. Depuis la semaine dernière, j'ai appris.
Tuto sur Internet ou...
Tuto à domicile. Ouais. Et c'est pas si compliqué une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait le triangle.
Non, alors c'est à expliquer à la radio, je pense que c'est là
impossible.
Pour le coup, c'est très
impossible.
Compliqué.
Il faut aller voir un petit tuto. J'imagine qu'il y en a sur Internet des tutos.
Bien sûr, il y en a plein. Donc allez voir un petit tuto.
C'est pas très compliqué, c'est bien fait. Quoi. Ensuite, on n'oublie pas. Quoi.
Voilà notre feuille de brique. Donc on va regarder le petit tuto de manière à former ces jolis petit triangle qu'on fait ensuite revenir dans de l'huile, donc une poêle assez chaude, une belle quantité d'huile, une cuisson 2 minutes de chaque côté de manière à les faire bien dorer, bien croustiller. Et alors ça, c'est délicieux, alors soit à l'apéro, soit en plat avec une petite salade et en fermant les yeux, mais ma foi, je suis au Maroc.
C'est vrai. Je valide complètement.
On est déjà au Maroc et ça nous rappelle cette belle émission avec le comte de Bouderbala, qui était algérien et à qui vous avez proposé évidemment
un tagine
de son pays, plein marocain comme chacun sait. Merci Sidi Pouls pour cette aventure marocaine. On se retrouve demain et samedi évidemment dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe.
Europe 1, 16h, 18h, L'Équipée Sauvage.
2 heures de découverte et de bonne humeur qui s'achèvent donc, mais vous retrouverez Mathieu Noël pour L'Équipée Sauvage avec Eva Rock et nos journalistes compétiteurs. Dès demain, 16h sur Europe 1, on prendra d'ailleurs des nouvelles de la chanteuse Zazie.